Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre cinquième et dernière rencontre autour des conditions du débat. Et parmi les conditions du débat, il y a évidemment les médias, leurs problèmes, mais aussi leurs ressources. Les conditions du débat démocratique qui comprennent l'éducation, la participation aux médias, la participation critique au débat tel qu'il nous est transmis par les médias, mais aussi peut-être une participation plus active. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Laurence Corroy, qui est maître de conférence en sciences de l'information à la Sorbonne Nouvelle et qui est une experte internationale pour différents pays de l'éducation aux médias aujourd'hui. Bonsoir Laurence Corroy.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir sur un média pour parler de l'éducation aux médias. Est-ce que vous pensez qu'on est en train, si dans ce studio là avec ces micros, on fait semblant de, mais on va réellement avoir une conversation, on va être dans le salon de personnes qui vont nous écouter ou je ne sais pas où, peut-être nous podcaster, peut-être transmettre cela de différentes façons. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de l'éducation aux médias sur un média comme ça? Est-ce que pour vous c'est un paradoxe, c'est une cohérence, c'est important?
Eh bien, il me semble que c'est cohérent. C'est cohérent parce que peut-être nous allons même réussir à avoir l'ambition de faire de l'éducation aux médias dans un média.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'éducation aux médias? Vous êtes donc spécialiste de cette question. Finalement, on a l'impression que l'éducation est très souvent tournée contre les médias. C'est une étape d'ailleurs historique. Vous avez notamment écrit l'introduction à un des volumes collectifs que vous avez dirigé sur cette question, porte sur un panorama historique de l'éducation aux médias. Et on rencontre tout de suite la question du geste critique. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les médias qui transmettent des informations, et le rôle de l'éducation, surtout aujourd'hui dans le débat démocratique, ce serait de les déconstruire, de les critiquer. Alors pour vous, c'est une étape, mais c'est pas l'essence, enfin, ce n'est pas le tout en tout cas de cette question.
Non, effectivement, pour toute éducation aux médias, on doit passer bien sûr par une analyse des médias, une déconstruction et une dénaturalisation des messages médiatiques afin d'en comprendre les mécanismes, éventuellement les discours stéréotypés, les clichés, enfin tout ce qui s'attache à une époque et qui doit être interrogé, c'est normal. Mais en même temps, si on ne fait que cela, il me semble qu'on manque quelque chose de l'éducation aux médias qui permet aux enfants et aux adolescents et aux jeunes, et puis peut-être aux adultes, de pouvoir vraiment développer une réelle autonomie vis-à-vis des médias. L'idée n'est pas de se construire contre les médias, ils sont omniprésents, mais plutôt de faire avec, et même, pourquoi pas, de s'en servir et de les utiliser aussi à ses propres fins.
Ça me semble fondamental aujourd'hui, parce que si on parle de débat démocratique, bien sûr, il peut être perturbé par des acteurs qu'on appelle les médias. D'ailleurs, il va falloir un peu les définir, les circonscrire. Est-ce que, voilà, bon, la radio, on voit bien que c'est un média, mais il y en a beaucoup d'autres, où est-ce que ça s'arrête? Pas seulement donc les critiquer, mais bien y participer, les faire servir au débat démocratique. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut donc, qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous entendez par les médias? Spontanément, peut-être qu'on pense à des médiations, donc pour transmettre des informations, des véhicules, des sources d'informations, disons, la télévision, la radio, mais c'est peut-être beaucoup plus large, c'est des médiations aussi entre les gens, de façon relationnelle.
Oui, en fait, le terme média peut être envisagé de façon extrêmement large, et auquel cas, on va plutôt aller vers la médiation. Et ce qui sert d'intermédiaire entre deux personnes. On peut aussi penser aux canaux, c'est-à-dire la matérialité du média et ce qu'il transmet. Et
puis les canaux, c'est-à-dire simplement la matérialité du tuyau,
oui,
du câble.
Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, on parle câble, on parle tuyau, on parle d'une façon très technique des moyens de radiodiffusion, des moyens de diffusion. Ouais. Et puis dans les médias maintenant, force est de reconnaître que les réseaux sociaux et Internet, qui pour moi n'est plus un média, c'est presque un gigamédia au sens où il agrège tous les autres, a rebattu aussi la donne. Et ce qui fait que nos sociétés postmodernes sont maintenant, à mon avis, dans une nouvelle ère où Nous sommes tous des producteurs aussi de médias, avec des communications réticulaires, où nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs en permanence.
Oui, parce qu'on parle des pouvoirs des médias, il y a même beaucoup de partis politiques qui dénoncent les médias, ça a même été l'objet de campagnes électorales finalement. Là, quand on dit les médias, comme ça, on pense souvent à un ensemble d'institutions qui sont fantasmatiquement peut-être chargées d'un certain pouvoir de haut en bas, comme ça. Les gens qui contrôlent des journaux, mettons, ou des stations de radio. Pour vous, d'après ce que vous venez de dire, Laurence Corroy, c'est plus seulement ça, les médias. Est-ce que ça existe même, les médias, comme on semble plus ou moins fantasmé, global ?
Alors, j'irais, Frédéric Worms, qu'en fait, quand on parle des médias et qu'on les dénonce, comme certains se plaisent à le faire, même dans certains partis politiques, on pense évidemment aux médias d'information, aux médias traditionnels. Ce que j'entends par traditionnel, c'est-à-dire tous les médias d'information qui se sont développés au cours du XXe siècle, et si on inclut bien sûr la presse écrite, à partir du XIXe. Mais c'est-à-dire les médias de masse qui se sont peu à peu sédimentés et pour lesquels il y a eu un travail professionnel qui est celui des journalistes.
Il y a une institution finalement qui contrôle un instrument et qui touche beaucoup de gens. Il y a une dissymétrie, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui possède par exemple une chaîne de radio ou de télévision, ça peut être très peu de personnes, et puis il y a une grande masse de gens qui sont... Voilà, donc ça c'est ça qu'on imagine sous le nom des médias pendant deux siècles à peu près, en tout cas au XXe siècle.
C'est exactement cela, ce sont les masses médias en fait, et le masse est tombé parce
le masse
média,
la masse étant la destinataire des médias.
Absolument.
Mais pas la productrice dans ce cas-là.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les médias traditionnels tels qu'on les envisage, en tout cas, ce sont des schémas fantasmés, unidirectionnels, où les messages vont être adressés à un grand nombre, assez indifférenciés, le public, alors qu'on sait maintenant à quel point il y a des publics, mais toujours est-il que voilà, ce sont des médias qui s'adressent à des grands groupes.
Et donc, on peut quand même penser, et ça existe encore quand même, Laurence Corroy, tout ça.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, heureusement, je dirais qu'ils n'ont pas disparu. D'ailleurs, là aussi, il y a un fantasme de penser toujours que le nouveau média va balayer les précédents. Ce n'est absolument pas vrai dans l'histoire humaine. Au contraire, ça ne fait que s'additionner en réalité. Et les médias aujourd'hui qu'on considère comme traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse écrite, eh bien, s'adaptent à chaque nouveau média, mais en réalité ne disparaissent pas.
Et ces médias, tels qu'on vient de les décrire, après, il va falloir évidemment décrire les nouveaux médias, donc qui ne les font pas disparaître les anciens. Ces médias, est-ce qu'on peut, tel qu'on vient de les décrire, comprendre pourquoi on les décrit comme un pouvoir? C'est parce qu'il y a quand même cette dissymétrie. Donc celui qui contrôle un média, il a quand même un organe dont on peut dire qu'il a un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'il influence des actions de beaucoup d'autres humains. Et donc il a du pouvoir.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que son pouvoir, effectivement, réside dans le fait qu'il s'adresse à un grand nombre. Et puis surtout, depuis la loi de 1881, il y a quand même, effectivement, attribué à la presse d'information, et puis après tous les médias d'information, une possibilité d'être un contre-pouvoir.
Donc, la loi sur la liberté de la presse en France, qui est constitutive de la Troisième République, là on s'approche du débat démocratique justement, c'est-à-dire qu'une des conditions du débat, c'est le pluralisme de la presse et sa liberté par rapport au pouvoir.
Absolument, donc c'est un contre-pouvoir par rapport au pouvoir, mais du
politique.
Coup, ça, par rapport au pouvoir politique, absolument, mais du coup ça devient un pouvoir réel. Par contre là où c'est beaucoup plus...
Donc, finalement, pardon de vous interrompre Laurence Corroy, la loi sur la liberté de la presse, certes protégée par rapport à un pouvoir, mais l'a reconnue comme pouvoir. Finalement, c'est une loi qui reconnaît un pouvoir à ce contre-pouvoir.
Tout à fait. Absolument. C'est exactement cela. À partir du moment où une loi libertaire a accrédité la presse comme pouvant s'exprimer librement, indépendamment du pouvoir politique, elle devient un pouvoir.
Et depuis ce moment-là, on peut dire que ce jeu des pouvoirs a été un petit peu régulé, au moins en France, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que comme pour la liberté d'information, la liberté de la presse peut aussi rencontrer des limites. Il y a eu, sous la Troisième République, déjà une presse à scandale, une presse politique, des presses qui appelaient au meurtre. Donc déjà, la limitation de ce pouvoir faisait problème, Laurence Corroy.
De toute façon, et c'est tout le paradoxe de nos démocraties, c'est que à la fois les médias d'information, tels qu'on les a définis tout à l'heure, représentent un contre-pouvoir important et une garantie, à mon avis, quand même, pour le système démocratique. N'oublions jamais que dans les régimes totalitaires, on a peu de médias.
C'est un des critères des régimes totalitaires, c'est qu'ils limitent les médias, justement.
Tout à fait.
Ils les contrôlent.
Et il les contrôle. Et de ce fait, avoir une pluralité de médias, c'est une garantie démocratique. Mais en même temps, évidemment, toute liberté qui s'exerce peut, à un moment donné, rencontrer ses limites. Et ça peut être la violation de la vie privée. En ce moment, on a des discussions autour de ça. Le secret des sources, jusqu'où on peut estimer que c'est de l'information ou, au contraire, une violation du domaine intime. Toutes ces questions-là restent vives.
Alors aujourd'hui, Laurence Corroy, vous vous spécialisez sur la question de l'éducation aux médias, surtout sur des questions très, très contemporaines. Ça suppose que, d'une certaine façon, jusque-là, mettons, pour faire un petit peu d'histoire, au 19e siècle, au 20e siècle dans sa plus grande partie, l'éducation tout court suffisait, c'est-à-dire que si on pouvait par exemple apprendre à lire, à écrire, ça permettait de résister un petit peu à des biais de tel ou tel journal, on avait un esprit critique un peu formé. Et aujourd'hui, il y a eu des médias qui obligent à une éducation spécifique, c'est-à-dire que on sait lire et écrire, on peut résister à un journal, on a un regard critique. Peut-être déjà l'image, le son, c'est plus pareil, il y a une dissymétrie.
Alors c'est intéressant votre remarque parce que en réalité ce dont on se rend compte depuis le début du 19e siècle, c'est dès l'apparition d'une presse je ne dirais pas encore de masse parce que dans les années 1830 on n'est pas encore à la presse de masse.
Justement l'éducation ne le permet pas mais lire et écrire sont pas universels.
Non, en plus. Mais dès l'apparition d'une presse un peu plus large, où on peut avoir un public un peu plus élargi, eh bien il y a déjà la question de penser que la presse peut pervertir les jeunes publics.
Ah, d'accord.
Donc en réalité, lire et écrire, dès le 19e siècle, on pense que ce n'est pas suffisant. Mais l'approche qui va se développer au 19e siècle et une partie du 20e siècle va être plutôt de dire l'école doit être sanctuarisée, ça doit rester un sanctuaire. Les médias n'ont pas à y entrer. Et finalement, la manière de développer l'esprit critique sera plutôt de s'en prémunir. Donc, pas de lecture de la presse, elle est dangereuse, elle est pernicieuse. Il faut se méfier de la radio, du cinéma et puis de la télévision.
Donc ça, c'est ce que vous rappelez dans votre très intéressant panorama historique de l'éducation aux médias. C'est que la première attitude, alors à la fois donc visiblement chronologique, mais aussi peut-être intuitive, psychologique, on pourrait dire, c'est ce que vous appelez le protectionnisme. C'est-à-dire on a l'impression qu'il faut éduquer aux médias, c'est d'abord en protéger, et notamment les jeunes et les enfants. C'est comme s'il y avait une perversion inévitable. Tout média est pervertissant. Et pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe, encore aujourd'hui d'ailleurs, de dire il y a un danger dans l'accès à ces contenus-là?
Pour deux raisons. La première, c'est que l'enfance, la jeunesse est à protéger. C'est-à-dire qu'on a intégré que la génération à venir, la génération montante, doit être l'objet d'attention et de protection.
Ce n'est pas forcément faux quand même,
Laurence. Ce n'est pas du tout faux. Je ne suis pas du tout en opposition avec cela.
C'est une fragilité, le petit bébé, si personne s'en occupe, il meurt tout simplement.
On est d'accord. Et puis en plus, il faut l'aimer.
Et en plus, il faut l'aimer, ce qui est normalement est prévu par des modules innés d'attachement, mais ça ne marche pas toujours.
Et puis, assez bizarrement, étrangement, on a aussi un autre sentiment vis-à-vis de l'enfance, et en particulier vis-à-vis des adolescents, qui est que ça peut devenir une classe dangereuse, une classe non maîtrisée. Et on a des résurgences très souvent, des discours les accusant d'être des sauvageons, de pouvoir être non contrôlés. Alors ça peut être un discours sur les jeunes de banlieue, ça peut être... Vous voyez, mais il y a des résurgences de façon absolument cyclique sur la peur de ces adolescents. Il faut revoir La fureur de vivre avec James Dean. Mais on a, de façon très très récurrente dans notre histoire, dans les sociétés occidentales, la peur du jeune.
Oui, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est aussi l'idée qu'il y a une concurrence entre l'école et les médias pour accéder à ce qui est un objet de pouvoir, finalement, qui sont les modalités de pensée, de comportement d'une jeune génération. Finalement, l'éducation aux médias, c'est aussi le fait que l'éducation est un enjeu de pouvoir, une concurrence entre les médias et les autres sources de savoir.
Oui, c'est exactement cela. Et c'est d'autant plus vrai avec Internet. Puisque, effectivement, Internet a bouleversé, à mon avis, de façon extrêmement profonde, peut-être de façon aussi violente que la galaxie Gutenberg depuis l'imprimerie.
Que l'écriture elle-même,
oui. Oui, de notre rapport au savoir, réellement, et de la manière dont on peut s'informer, se former. Il y a des cours en ligne, enfin, c'est extraordinaire, les bibliothèques en ligne auxquelles on a accès aujourd'hui, en quelques clics. Donc oui, l'école se trouve souvent
en concurrence
avec les médias.
Et donc, ça devient une sorte de champ ouvert. Et effectivement, il y a cette idée, alors on va venir au danger réel des médias. Ce qui est intéressant dans votre approche, y compris dans votre expertise pour les pouvoirs politiques, c'est que vous n'y voyez pas seulement un danger, mais aussi une source de participation active des enfants en particulier, des jeunes à la médiation et au langage. Mais quand même, dans les dangers, on voit bien qu'il y a une volonté de... Il y a un risque de perdre le contrôle des discours, finalement. Et ça, dès le début du 19e siècle, finalement, entre le discours autorisé des parents, de l'école, du politique, tout à coup, les médias perturbent le jeu.
Oui, c'est absolument cela. C'est-à-dire que les médias perturbent le jeu. Vous avez tout à fait raison de le dire comme ça. Et... finalement, on a très peur d'être dépossédé, finalement, de l'instruction des enfants. Et qu'il y ait une instance non maîtrisée, avec un pouvoir, en plus, assez fantasmé, sur la puissance qui est exercée sur les publics, et à fortiori sur les jeunes publics. Et ce qui fait que on s'en méfie, et on s'en méfie de plus en plus violemment, à mesure que les médias entrent dans les familles.
Vous dites que c'est assez fantasmé, Laurence Corroy, mais chacun d'entre nous, plus ou moins, reproduisant peut-être des gestes du XVIIIe siècle, effectivement, et début du XIXe, par exemple Rousseau, qui disait l'éducation négative, c'est-à-dire qu'il faut protéger l'enfant de ce qui n'est pas encore bon pour lui. On a tous l'idée que voir des scènes de violence, voir des scènes de sexe, voir des scènes idéologiques, trop tôt, intervenir trop tôt sur cet esprit en développement, ça peut en effet pervertir. On a tous cette idée d'une fragilité, d'un enjeu majeur pour l'humain.
Mais elle est juste. Cette idée-là est juste.
C'est ce que je voulais vous entendre dire ou pas dire, mais en tout cas, c'est la question.
Tout à fait, cette idée-là est absolument juste.
En plus, les idées qui sont acquises, après, elles peuvent ne pas bouger. Enfin, c'est une responsabilité majeure.
Alors, c'est d'autant plus gênant qu'en plus, les enfants, spontanément, vont avoir du mal à exprimer ce qu'ils ont regardé, d'autant plus s'ils n'en avaient pas l'autorisation. Donc, ce sont des images qui peuvent s'enquister et qui peuvent rester et résonner très violemment pendant très longtemps. Chez un jeune. Donc, il faut absolument discuter de ce qui est vu et regardé.
Donc, ce que vous venez de dire, qui en plus ajoute la dimension à laquelle il faut venir, évidemment, de ce que l'image ajoute au langage, au XXe siècle, donc essentiellement, c'est que, en fait, il peut y avoir un double effet, c'est-à-dire une image qui, en effet, peut avoir des effets, mais l'interdiction peut aussi redoubler l'effet, au lieu de le protéger, peut redoubler.
C'est ça. C'est pour ça que, il me semble qu'au vu de. Des images, des discours qui peuvent être vus très tôt. Il faut d'abord dire à l'enfant que si jamais il se trouve confronté à des images qui l'ont gêné, à des discours qui l'ont heurté, il faut vraiment en parler. Il ne faut pas avoir honte parce que, en plus, le premier sentiment que l'enfant a dans ces cas-là, c'est de la honte.
Ce qui est très frappant dans ce que vous dites, Laurence Corroy, c'est qu'au fond, vous faites confiance aux enfants pour exprimer eux-mêmes ce qui est négatif dans l'image. On a l'impression que la négativité doit être signalée par l'adulte, dire ça c'est pas bon, mais peut-être que dans ce que vous venez de dire, il y a l'idée que les enfants eux-mêmes peuvent dire ça m'a gêné. Et faire confiance à l'enfant, c'est au cœur d'une de vos approches, il me semble.
Oui, tout à fait. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec les enfants et surtout ne pas avoir peur d'exprimer nos sentiments. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que si on commence nous-mêmes par dire, tu vois, ça me met très mal à l'aise.
Il y a quelque chose qui va pas.
Cette violence me met mal à l'aise. Y a un certain nombre de choses qui m'émeuvent, qui me mettent en situation d'exprimer des émotions. Alors l'enfance le permet aussi. Si on reste impassible devant les JT et devant le spectacle parfois extrêmement douloureux du monde, alors l'enfant pense que c'est l'émotion et la réaction adaptée.
Il va avoir honte d'exprimer sa propre émotion.
Tout à fait.
Donc il y aurait deux erreurs. Une erreur qui consisterait à simplement interdire, parce que là aussi ça peut avoir un effet de non-dit. Et une autre erreur qui consisterait à ne pas dire du tout. Et dans les deux cas, au fond, pour vous, le danger, c'est le non-dit. C'est que l'image ne soit pas entourée de langage, finalement.
Absolument. Il faut absolument discuter. Et c'est vrai aussi des adultes. On sort d'un film qui nous a bouleversés. Ouais. On a envie d'en parler.
Spontanément, on a envie d'en parler. Si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passerait, par exemple?
Ça peut continuer de résonner de façon négative. Parce que dans l'image, il y a deux choses. Il y a l'image réelle, qui peut être effectivement bouleversante. Et puis, il y a aussi ce qu'on est nous, et ce qui nous bouleverse nous. Et parfois, ça peut être différent. Ce qui est sûr, c'est que c'est le langage qui nous permet de symboliser et de prendre de la distance.
Alors, dans cette fonction du langage autour des images, puisque là, on est arrivé aux images, Laurence Corroy, dans cette fonction du langage, il y a ce que vous venez d'évoquer très librement, c'est-à-dire la... Qu'est-ce qu'on vient de voir? La spontanéité de la conversation. On sort du cinéma, on explique aussi à ses enfants, on est un enfant qui demande conseil, etc. Mais il y a aussi des méthodes à acquérir, c'est-à-dire percevoir un stéréotype. On va y venir aussi dans un instant, un stéréotype racial, un stéréotype sexuel. Ça ne s'invente pas entièrement, il faut quand même quelques outils. Ou bien est-ce que c'est la spontanéité qui va dire là, qu'est-ce qui se passe? On traite les femmes comme ci, comme ça? Ou est-ce qu'il faut quand même, dans l'éducation critique, ce deuxième geste, il y a la protection. Et puis après, pour vous, qu'il faut dépasser aussi, mais il y a un geste critique. Et là, ça s'apprend.
Oui, alors, il y a deux métiers. Mmh. Il y a le métier de parent.
D'accord.
Et le métier d'enseignant. Dans le métier de parent...
On n'est pas recruté pour être parent, mais enfin,
on n'est pas
quand même
recruté,
un métier.
Mais de fait, quand on le devient, on y est confronté. Eh bien, je dirais que pour les parents, c'est au quotidien, par petites touches. Là encore, s'autoriser à réagir et à dire que là, on repère un stéréotype, là, on repère un discours discriminant, on repère un discours raciste ou antisémite, misogyne. Mais évidemment, les enseignants sont aussi un relais extrêmement efficace. Mais ce qui me semble le plus efficace, pour l'avoir testé moi-même avec des étudiants et faire une exposition qui s'appelle « Fais pas ton genre » là-dessus, c'est que quand on inverse...
Les stéréotypes de genre, par exemple.
Absolument. Quand on inverse les stéréotypes de genre, c'est-à-dire, imaginons, on prend ensemble une publicité et puis on remarque que la position de la femme ou est sujette à caution, on peut s'interroger. Eh bien, on va mettre un homme à la place. On va trafiquer l'image. D'abord, ça permet en plus d'acquérir des compétences techniques. Et puis, on met un homme à la place. Ouais. Et tout d'un coup, ça devient évident.
Ça saute aux yeux.
Ça saute aux yeux.
Mais là, justement, il faut une maîtrise technique, il faut un savoir critique, il faut avoir déjà un peu réfléchi, tout simplement.
Oui, c'est pour ça que là, c'est plutôt dans un cadre scolaire, au lycée, à l'université, qu'on peut mettre en place ce type de dispositif.
Alors, on va réfléchir ensuite pour savoir comment cette réflexion peut se diffuser, parce que dans cette médiation maintenant ouverte, généralisée qu'est Internet, comment est-ce qu'on acquiert les savoirs critiques? Mais on va avoir un indice de la confiance que vous faites dans le monde, y compris dans le monde contemporain des images, à travers la musique que vous nous avez proposée ce soir.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre cinquième rencontre autour des conditions concrètes du débat démocratique et ce soir autour des médias et de l'éducation aux médias, ces écrans, ces contenus, ces réseaux qui sont pour nous maintenant non plus seulement d'ailleurs des médiations dans le débat, mais qui font partie de la vie tout court, de la vie démocratique. Et pour en parler ce soir, Laurence Corroy, qui est maître de conférence en sciences de l'information et experte à l'éducation aux médias. Alors Laurence Corroy, vous n'insistez pas seulement sur les dangers des médias, qui peuvent produire des paniques, qui appellent des critiques, on va y revenir, mais aussi sur leur positivité, et donc sur le fait qu'on peut... On peut et on doit, pour y résister aussi, y avoir un rapport actif et créatif. Est-ce que la musique qu'on vient d'entendre, What a Wonderful World, est-ce que c'est pour dire, au fond, faites passer aussi vos contenus positifs sur les médias, inventez, créez pour résister à ce qui peut sinon vous dominer?
Tout à fait, Frédéric Worms. Je pense que le message de What a Wonderful World, c'est aussi de penser que nous sommes environnés en permanence par une pensée assez défaitiste, en particulier en France, hein, il paraît qu'on est un des peuples les plus pessimistes au monde. Et il me semble malgré tout
on
que...
On n'y croit pas vraiment, je vous rassure, Laurence. En fait, hein.
Vous me rassurez.
En critique, parce que voilà, c'est en fait pour dire on est les plus forts.
Alors je prends cette explication beaucoup plus positive. Toujours est-il que vis-à-vis des médias, effectivement, si on développe une approche beaucoup plus créative, il me semble d'abord que ça permet aux jeunes de s'exprimer et s'exprimer différemment. Ça leur permet de prendre une autonomie vis-à-vis des médias. Et puis, je crois beaucoup aussi au travail exposé. C'est-à-dire que quand on est, que ce soit au lycée ou à l'université, quand on travaille un projet collectif pour un tiers, c'est-à-dire qu'on invite du public, qu'on invite quelqu'un d'autre qui est destinataire de ce travail, il change de dimension nécessairement.
Alors ça n'était pas possible, Laurence Corroy, avec le type de médias dont on a parlé jusqu'ici, qui sont les grands médias dissymétriques, avec une instance centrale qui diffuse un contenu de haut en bas vers une masse de gens, comme ce qu'on appelle les médias encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des médias qui sont très différents, qui sont en un sens apparemment horizontaux, qui donnent cette impression de participation réelle. Ce que vous dites, c'est qu'ils ne sont pas seulement une illusion, mais une réalité. On peut, sur ces médias, parler, diffuser, montrer ses œuvres.
Oui, absolument, et c'est tout l'intérêt. C'est l'intérêt aussi de se rendre compte que quand nous avons un récepteur tiers, qui n'est pas son camarade, qui n'est pas l'enseignant, eh bien, on développe nécessairement, de façon intuitive, une exigence différente.
On travaille pour un public.
On travaille pour un public. Et de ce fait, on acquiert des réflexes beaucoup plus professionnels. On a envie d'être fier de son travail. Et ce que je découvre systématiquement avec les étudiants, c'est à quel point ils se donnent de la peine et ils sont fiers du résultat, ils ont envie de le montrer.
Et comment est-ce que vous combinez, Laurence Corroy, à la fois dans votre théorie et dans vos conseils pratiques et politiques, le geste critique, consiste à critiquer les contenus, y compris quand même sur les réseaux sociaux, qui arrivent quand même de haut en bas, même s'il y a de l'horizontalité. Combiner le geste critique et le geste créateur ou créatif.
Il me semble qu'il faut commencer toujours par l'analyse critique, pour donner des bases théoriques, dans le cadre d'un enseignement. Et puis, très rapidement, il faut proposer un projet. Un projet qui leur permette justement de s'accaparer le sujet, aussi d'acquérir des compétences techniques. Je crois aussi que les médias, ce n'est pas seulement de l'analyse critique, ce n'est pas seulement de la créativité, c'est de la créativité mise au service de valeurs.
D'accord.
Et c'est de la créativité aussi médiée par de la technique, parce que tous les médias nécessitent quand même un minimum de technique.
Donc si on dit aux jeunes... Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on seulement des jeunes? Mais on a déjà un peu réfléchi à cette question-là tout à l'heure. Mais si on dit, disons, au public, méfiez-vous, critiquez, on vous ment, c'est dangereux, on véhicule des stéréotypes qui peuvent vous mener à la guerre et à la haine, c'est insuffisant. Il faut aussi dire aux citoyens, ne vous critiquez, prenez de la distance, mais aussi agissez, proposez et au nom de principes quand même donnés. C'est-à-dire, on n'éduque pas seulement sur la technique, justement, mais... aussi pour ne pas dire n'importe quoi, pour faire avancer un monde commun.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que là où je pense que l'éducation média est nécessaire, c'est qu'à mon avis, c'est un humanisme. C'est-à-dire
que... Ça peut l'être, en tout cas.
Il faut en tout cas tendre, à mon sens,
d'accord,
vers un idéal humaniste. C'est-à-dire qu'on doit développer des valeurs. C'est pas seulement, effectivement, dire « Regardez, on peut vous mentir, sinon on arrive à un relativisme absolu, à croire à toutes les... théorie du complot, c'est ça.
Paradoxalement.
Paradoxalement, c'est finir par croire que tous les canaux professionnels sont à jeter et que finalement, tout se vaudrait et que donc, pourquoi pas les théories du complot, pourquoi pas les fake news. Tout est possible.
C'est ça, finalement, à force de critiquer, on peut tomber dans ce qu'on voulait dénoncer, c'est-à-dire une paranoïa critique.
Oui, il y a un vrai danger à la paranoïa si on ne développe pas à côté une créativité engagée.
Qu'est-ce que vous appelez exactement une créativité engagée, Laurence Corroy ? Quel en est le critère ? Comment est-ce qu'on l'inculque ? Comment est-ce qu'on la partage ?
Alors, c'est un idéal, hein.
Il y a une part,
il y a une part utopiste dans ce que je vais dire, mais il me semble qu'une créativité engagée, c'est une créativité qui est mise au service de tous, qui est mise au service de l'humain. Le but, c'est que finalement, on développe un bien commun, qui est celui de vivre ensemble, de pouvoir vivre ensemble, malgré nos différences de culture, d'approche, de religion.
Mais alors justement, il y a un autre point qui me frappe beaucoup, Laurence Corroy, dans vos travaux, qui sont souvent d'ailleurs des travaux collectifs, c'est à la fois la visée d'un bien commun, mais une très très grande ouverture sur la source de la création, la source individuelle, culturelle. Et donc vous dites, si on est en Afrique, on ne va pas exprimer les mêmes contenus qu'en Europe, et donc finalement se servir aussi des médias pour exprimer sa singularité, et pour ne pas tomber justement dans l'uniformité qui est un danger.
Oui, le plus grand danger finalement aussi des médias, à force de remarquer comment par exemple les jeunes se mettent en scène sur les réseaux sociaux, utilisent les images et s'envoient des images, c'est une tendance à l'uniformité des contenus, des manières de se présenter, des manières de...
Il y a des stéréotypes qui viennent les dominer, même dans leur corps.
Mais tout à fait, la corporealité est très troublante, parce que finalement, peu à peu, on voit des poses et des gimmicks de langage aussi qui sont empruntés à la télé-réalité. Et ça, c'est dommage parce que ça efface la singularité. Donc, une éducation aux médias, oui, mais contextualisée à chaque fois dans la culture. Et l'Afrique de l'Ouest, pour moi, a été un terrain intéressant.
Alors, ça m'a frappé dans ces recueils. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest spécialement ?
Parce qu'il me semble que c'est une région du monde qui est francophone. Il y a un enjeu de francophonie pour nous. C'est important de s'y intéresser. Et puis, c'est un ensemble de pays qui, d'une certaine manière, à sauter la case ordinateur. Ce qui me frappe beaucoup quand je vais en Côte d'Ivoire ou au Togo, c'est que finalement, c'est l'iPhone qui est utilisé.
Directement, disons, peut-être pas du journal, mais de la radio et de la télévision, au téléphone 4G,
je sais pas combien de G, exactement.
Et sans passer par l'ordinateur. Qu'est-ce que ça change, Laurence Corroy?
Ça veut dire que on a affaire à une très grande mobilité de l'information, c'est nomade. Et aussi, il y a un vrai enjeu culturel parce que finalement, ce qui caractérisait les circuits informationnels dans une Afrique traditionnelle telle qu'elle m'est souvent racontée, c'était par des hommes, des griots qui étaient dépositaires du savoir commun. Là, on a un éclatement extrêmement rapide, extrêmement violent, qui fait que les pays africains sont très intéressés par l'éducation en médias comme moyen de comprendre et d'articuler des savoirs traditionnels et des nouveaux médias.
Donc ils ont peut-être des dangers un petit peu différents des sociétés européennes, où il y a au contraire peut-être un risque de contrôle par certains acteurs. Là, c'est un risque d'éclatement. Et donc ils ont d'autres ressources et ils s'intéressent à la créativité. Vous essayez d'insister vous-même en tant qu'experte internationale aussi sur cette dimension de créativité.
Oui, j'insiste systématiquement sur ce point, parce que sinon, on va avoir un discours stéréotypé protectionniste. Parce que c'est notre
réflexe
en tant qu'adulte.
Un danger, on a envie de dire attention, méfiez-vous.
Voilà. On a un réflexe en tant qu'adulte qui est celui-là. Et le problème, c'est que on plaque sur les plus jeunes nos peurs. Mais je rappelle toujours, quand je discute avec des interlocuteurs différents, je leur pose toujours la question, qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus violent pour des enfants ? Eh bien, rarement, ils me disent, ce qui est pourtant le plus violent pour les petits-enfants, c'est la perte du doudou ou la perte du parent. Bambi est extrêmement violent. Et évidemment, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit en premier.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on se trompe sur ce qui peut perturber un enfant ? Et qu'on le protège contre des mauvaises images, on n'est pas conscient des images les plus dangereuses, ou bien plus généralement dans la vie enfantine, on les protège contre des images, alors qu'il faudrait les protéger d'abord contre le malheur et contre la violence.
Et ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, il faut les protéger de la violence et des images qui ne sont pas faites pour eux. La pornographie, évidemment, mais le JT aussi. Hein. Mm-hmm. Avant 10 ans, je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée de regarder le spectacle La souffrance du monde quand on n'est pas armé. Mais je rappelle toujours que la violence est relative. C'est-à-dire qu'elle est relative toujours à l'âge de l'enfant et à sa psychologie.
Et comment est-ce qu'on éduque alors les enfants, d'accord, mais aussi donc les parents, les médiateurs, les éducateurs eux-mêmes? Comment est-ce qu'on fait de l'éducation aux éducateurs, Laurence Corroy, quand vous êtes sollicité, vous-même universitaire? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des réformes en France, par exemple, qu'il y ait dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, une instruction à ce que vous pratiquez?
Oui, je l'appelle de mes voeux. Très fortement, parce que je crois que l'école ne peut plus se couper des médias et on va en avoir besoin d'une éducation aux médias de plus en plus tôt. Et d'ailleurs, les expérimentations que j'ai menées auprès de doctorants montrent que dès la fin de la maternelle, ça peut être efficace jusqu'à l'université, car en réalité, l'éducation aux médias, on en a besoin toute notre vie.
C'est-à-dire que vos doctorants, par exemple, quel est leur problème avec les médias pour prendre ceux sur qui vous pratiquez l'éducation vous-même?
Eh bien, parfois, discriminer les bonnes sources.
Ah oui.
Comprendre que...
Maintenant, ils vont sur Internet, ils cliquent leur sujet. Et...
Oui, mais Wikipédia, ce n'est pas la Bibliothèque nationale de France. Il faut faire la différence. Donc, il faut apprendre à discriminer les sources, à comprendre les types de discours qui sont véhiculés. On peut aussi faire attention aux médias autoproclamés. Qui est derrière? Quelles sont les intentionnalités aussi des personnes qui délivrent des messages sur Internet?
Donc... Laurence Corroy, on voit bien en vous écoutant qu'il faut de l'éducation aux médias, que c'est même une dimension peut-être de toute éducation aujourd'hui. En termes de débat démocratique, quand vous voyez des initiatives des deux côtés, j'allais dire, hein, s'il y a des gilets jaunes, mettons, qui se mettent à discuter d'un côté, à protester et à discuter, et d'un autre côté, un grand débat qui est organisé, tout ça passe par des médias aussi. Comment est-ce que vous analysez le rôle des médias dans toutes les modalités du débat public aujourd'hui?
Elles sont toutes importantes et ce qui est très frappant dans le cas des Gilets jaunes, c'est que on a effectivement un grand débat organisé par l'État. On peut répondre sur Internet. Je suis allée voir le questionnaire.
D'accord.
Et c'est une initiative intéressante, mais malgré tout, on voit bien que les questions sont encadrées par un certain système.
Mmh.
Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que les Gilets jaunes proposaient en retour de créer eux-mêmes leur agora numérique.
Donc, ils contestaient le cadre, finalement.
Oui, c'est ça, exactement. Ils contestaient le cadre de pensée et les items, d'une certaine manière, préorientés. Et je trouve que les deux sont intéressants. Les deux façons de faire peuvent coexister et peut-être doivent coexister.
Et quelles sont alors leurs limites? À quel moment est-ce que vous mettez un signal d'alerte en disant, là, dans le débat, le média lui-même, le contenu, mais aussi peut-être le média, va trop loin, a un effet destructeur en lui-même? Comment est-ce qu'on peut repérer un danger médiatique, en quelque sorte, Laurence Corroy?
Alors, il me semble que le média en tant que tel ne peut pas être incriminé. En revanche, les messages, oui. C'est-à-dire que quand les réseaux sociaux deviennent des torrents de haine pour agonir d'injures quelqu'un, pour le mettre au pilori, et on a vu avec les dernières affaires et la Ligue du LOL à quel point ça a pu être destructeur pour les personnes, alors là je crois qu'il y a un vrai danger pour notre savoir commun, pour notre bien commun, pour pouvoir vivre ensemble. Donc le média, à mon avis, n'est jamais le coupable, c'est plutôt la manière dont on s'en sert, c'est un outil.
Bien sûr, mais en même temps, le média et la manière dont on s'en sert, c'est pas toujours discernable. Il y a des contagions médiatiques nouvelles parce que c'est des médias très rapides, que personne ne contrôle, ou en apparence que personne ne contrôle. Quand même, il faut réfléchir à la structure même de ces médias, pas seulement à tel ou tel contenu.
Vous avez raison, il y a besoin de régulation. Il me semble que sur Internet, il y a besoin de régulation. Alors, il y a eu un débat sur l'anonymat, est-ce qu'il faut lever l'anonymat ou pas? Je n'ai pas de réponse tranchée sur le sujet, mais il me semble tout de même qu'une régulation plus fine doit être mise en place.
Donc pas seulement sur les contenus, l'incitation à la haine, mais aussi sur, effectivement, cette réflexion doit porter sur les modalités d'intervention dans ces médias.
Mais je crois qu'il faut rappeler, et là c'est une éducation aux adultes, hein, qui concerne les adultes, que ce n'est pas parce qu'on est anonyme ou derrière son écran qu'on peut se permettre des fantasmes de surpuissance qui ensuite autorisent toutes les formes les plus déviantes de prise de parole.
Et vous-même, quand vous incitez à la créativité, je voudrais revenir sur ce point, puisque c'est votre réponse finalement au danger. C'est pas seulement de critiquer, mais de créer. Cette création que vous faites, vous soutenez des acteurs, y compris des jeunes, sur les médias, elle est évidemment signée, elle est nominative, et puis elle est assumée, disons, pleinement. Elle n'est pas juste une sorte de participation anonyme à un réseau, à une contagion.
Non, non, absolument pas. C'est toujours signé, effectivement, et c'est une réflexion qui doit être éthique. On ne peut pas se passer d'une éthique des médias quand on devient soi-même producteur de médias.
Et donc cette éthique, ce sera aussi une forme de réponse à un besoin de reconnaissance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Laurence Croix, que si on dit à tout le monde, créez, mettez en ligne vos œuvres, en quelque sorte, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas un cadre de reconnaissance de la création, et comment est-ce qu'elle peut être? Est-ce qu'elle ne peut pas se retourner en aigreur, en amertume et de nouveau constituer un danger? Comment est-ce qu'on reconnaît? Par quels moyens est-ce qu'on peut donner une reconnaissance à cette créativité?
Alors, c'est une vaste question. Il y a maintenant des sites et des forums organisés. Je pense par exemple aux fans, vous savez, qui créent eux-mêmes des suites aux ouvrages qu'ils ont aimés. Il y a une organisation, c'est-à-dire que le système lui-même, à un moment donné, non pas s'autorégule, mais produit...
Une reconnaissance, au fond.
Un type de reconnaissance. Et d'ailleurs, je dirais que, historiquement, les blogs se sont très bien organisés par système de reconnaissance. Les plateformes avaient mis en place un système, justement, qui permettait de voter, de reconnaître, d'aimer, de liker les blogs qui leur paraissaient les plus efficients. Donc, il me semble qu'effectivement, il y a deux dimensions. D'abord, celle d'avoir le pouvoir de créer, et puis aussi de trouver son auditoire. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, car quand on écrit un livre, on ne sait jamais si finalement il va rencontrer son public.
On prend toujours un risque, finalement.
Voilà. Mais toujours est-il que les plateformes de plus en plus s'organisent en ce sens.
Et pour vous, ça fait partie de la citoyenneté aujourd'hui, la citoyenneté qu'on pourrait dire numérique, la citoyenneté publique, une forme de participation à la vie sociale. Vous avez un article qui s'intitule « Éducation aux médias, citoyenneté et créativité, les enjeux de l'éducation aux médias au XXIe siècle ». Pour vous, ça fait donc cet apprentissage créatif des médias fait partie de la citoyenneté contemporaine?
Mais oui, parce que sinon, comment comprendre les codes? Comment saisir la manière dont on a le droit de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer? Comment aussi pouvoir élever le débat?
Élever le débat. Magnifique expression qui nous mène à la conclusion de notre débat trop rapide ce soir. Mais élever le débat, je trouve que c'est un mot d'ordre magnifique pour la société aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurence Croix.
Merci, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre dernière rencontre autour des conditions du débat, autour de l'éducation aux médias, avec Laurence Croix. Avec et grâce aussi à Joséphine Lampreya, Marie Lepeintre, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Dès lundi, je cède mon siège et mon micro à Dominique Rousset, qui toute la semaine traitera avec vous de l'ère des lanceurs d'alerte. Bonsoir.